Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle ? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros, ensuite parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris, et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connu revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, vaut mieux pas avoir la bouche pleine d'eau quand il est à vos côtés. Rire aussi communicatif que le sourire, verbe pour vous faire plier en deux. Âme généreuse et chaleureuse, Aziz Aboudrar est mon invité. Comment ça va ?
Comment tu vas, Abou ?
Ben moi ça va, Aziz, okay. Tu m'intimides.
Ouais, c'est marrant parce qu'à bout de souffle, c'est ce qu'on me dit que par rapport à mon famille.
Ah ouais ?
Les jeux de mots
Aboudrar aussi,
à bout de souffle et compagnie, c'est marrant. Bah, j'aime bien ces galeries, on commence bien.
Moi aussi, c'est le jeu de mots avec mon surnom, Abou, du coup.
Ouais, bah c'est normal. Hein,
comme
ouais.
Je suis un peu égocentrique, je l'ai dit
t'as
en raison,
émission. T'as raison, mais frère, faut se faire plaisir, mon pote.
Mais il y a une dinguerie avec toi, j'ai une anecdote, je te le disais avant l'émission, je crois que c'était il y a 2 ans, c'était en hiver, j'étais allé acheter des sushis et je retourne pour rentrer chez moi et je te croise dans la rue. Sauf que je sais pas trop qui t'es, du coup je te regarde et je te regarde un peu bizarrement, je me dis, mais vous êtes connus, vous ? Et tu me regardes, tu me dis, bah bonjour déjà.
Ouais,
et,
ouais.
Là, je stresse, je te dis, oui, bonjour.
C'est un peu ce que je dis aux gens. En fait, comme on dit, des fois, on te reconnaît dans la rue et tout. Et des fois, il y a des gens, bah, ils n'ont pas le tact ou un truc comme ça, tu vois. Et moi, je commence toujours par un bonjour, tu vois. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, machin. Et après, tu dis ce truc. Et j'en ai plein des jeunes, surtout les enfants. Moi, je leur dis souvent, hey, c'est pas toi, bonjour.
Non, mais c'est vrai,
au moins
c'est...
tu cales le truc, ça va. Et eux ils disent bonjour, ah pardon, ouais c'est moi, ça va, sinon après on parle, on discute. Mais les trucs de ah, c'est pas toi, machin, des fois t'es pris par le taf, par les trucs.
Mais aussi c'est peut-être que je t'ai dit, ouais. On te connaît pas, on est là.
Ouais, c'est ça, tu vois, parce que comme on dit, voilà, vu que moi je suis sur les réseaux, à la télé, genre sur les téléphones, les trucs, donc les gens ils pensent qu'on. Ah, on se connaît, en fait, tu
ouais,
vois.
Alors que,
ouais, je suis là, je fais du contenu, je vous fais plaisir et tout, mais quand on se voit dans la rue, un bonjour d'abord et après.
Ouais,
on
c'est
parle.
Le plus. C'est le... Bah, surtout que moi, à l'époque, je savais pas du tout. En fait, je remettais ta tête. Je sais que sa tête, elle me dit quelque chose, mais je vois pas c'est qui. Et du coup, je suis rentré chez moi. Déjà, j'avais honte en rentrant chez moi. Je me posais 1000 questions.
Ouais, non, t'inquiète, c'est rien. C'est juste. C'est après, tu vois, moi, je pense qu'on était bien. Après, on a discuté tranquille. J'étais pas.
Non, j'ai
j'étais
paniqué, pas... je suis parti. Donc, vraiment, j'étais stressé. On s'est rencontrés dans le 13e en plus.
C'est là. Ouais, j'habitais là pendant 4 ans en plus.
Bah, pas très loin. T'étais en scooter.
À côté de National et Olympiade.
Exactement, à côté de National, vers le Franprix, pas très loin du Franprix.
Oui, bah, j'habitais là. Le bâtiment qui était là, j'habitais là.
Bon, on s'est croisés là-bas. Okay. Et du coup, moi, je suis rentré chez moi plein de questions. Et j'ai cherché toute la soirée. Mais c'est qui ? Je sais c'est qui. Et je fais, ah ouais, mais j'ai.
Et surtout, tu sais, la question de vous êtes connu, vous, c'est très. Comment dire si tu réponds, hein, moi, je trouve que c'est un peu trop. Tu te la racontes. C'est genre en mode, tu dis, ouais, je suis connu. Oui. C'est moi. Non, tu vois, c'est. Tu réfléchis d'abord, tu vois qui c'est. Toi, moi, je me vois pas voir une personne. Je l'ai vu quelque part et je lui dis, hey, t'es pas connu toi.
Ouais, c'est
alors qu'en vrai, c'est peut-être mon voisin de palier et que je l'ai jamais vu en vrai. Tu vois ce que je veux dire. Donc non, mais tranquille, hein, faut pas te poser des questions.
C'est bah tranquille. Ça va. Alors merci. Tu m'as enlevé cette anxiosité déjà.
Non, pour commencer frère, l'émission. Pas, vous.
J'ai l'habitude avec mes invités de faire une fiche d'identité.
Ouais.
Toi, t'es la fiche d'identité 141-069-05.
Let's go.
Je vais te poser des questions et tu me réponds.
T'en dis un numéro d'écrou, l'histoire, voilà. Je pleure pas, je touche du bois, les frères.
Nom, prénom ou pseudo ?
Aziz Aboudrar, pseudo, j'en ai pas.
Date de naissance ?
17 juillet 1988.
Lieu de naissance ?
À Saint-Denis, dans le 93.
Nombre de frères et sœurs ?
J'ai 3 petites sœurs.
Profession ?
Je suis comédien, humoriste, créateur de contenu, artiste, quoi.
Passion, hobby ?
Passion, le foot, le PSG, hobby, le break. J'ai breaké longtemps, donc ouais, c'est un peu un de mes hobbies aussi. Je pratique plus trop, mais je suis toujours, et je suis speaker aussi dans des événements de break, donc c'est une passion et un hobby, Il y a quoi d'autre comme hobby? J'en ai plein d'autres. Hein. Jeux vidéo et tout, tu vois.
Play. Okay. Talent caché?
Talent caché, rappeur, dessinateur.
Tu fais des choses.
Ouais, il y a quoi d'autre encore? Danseur, il y a plein d'autres trucs. Hein.
Lieu de résidence?
Là, en ce moment, je suis retourné chez mes parents dans le 9-4.
Réseaux sociaux?
Aziz Aboudrar, partout. TikTok, Insta, YouTube, Facebook, LinkedIn, Le Bon Coin, Pornhub. Non, je rigole.
Wow, allez, à bout de souffle, ouais, mon regard. C'est coupé.
En plus, il coupe jamais le technicien. Comment se passe l'enfance d'Aziz Aboudrar? Bah, elle ressemble à quoi?
Elle se passe bien. Une enfance assez sympathique. Des parents aimants, un peu sévères hein, par rapport aux études. Tu connais les darons africains. Après voilà quoi, non, ça s'est bien passé. Je me suis longtemps cherché étant jeune, je me suis longtemps cherché jusqu'à trouver ma voie au lycée grâce au théâtre d'improvisation et voilà quoi. Sinon ouais, une enfance assez cool, bon délire. J'étais le mec super bon délire. À un moment j'ai eu ma période rebelle de Kaira, mais j'ai vu qu'en fait à tout moment je pouvais balancer mes potes, donc c'est pas pour moi.
Allez, c'était quoi ta relation avec tes parents, avec tes sœurs? Du coup toi t'as pas de frère?
Avec ma petite sœur, où on a 3 ans d'écart, ça a été très, très conflictuel. Tu sais, c'était chien et chat. Donc, on s'embrouillait pour un rien. On se regardait, ça s'embrouillait direct. Et après, dès qu'elle s'est mariée, ça s'est grave apaisé de mon côté. Et avec mes petites sœurs, on a au moins une dizaine d'années d'écart. Je suis pas le grand frère que j'étais avec la première. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute. Et s'il y a des coups de pression à mettre, on mettra des coups de pression, mais ça ne sera pas des coups de pression gratuites, c'est vraiment pour la vie et compagnie. Donc ouais, non, très cool.
Et avec tes parents, pareil?
Parents, ouais, ça a été difficile. C'était très dur à une période, parce qu'il fallait faire accepter que le fait que je devienne artiste. Et tu connais, hein, chez nous, ouais, c'est soit t'es avocat, soit t'es
médecin.
C'est nous, chez nous, les berbères marocains, c'est soit t'ouvres une épicerie, soit t'ouvres une boucherie à ton compte, faire un truc de commerce. Et ça a été très très dur à un moment, et après là ils l'ont accepté, donc ouais ça va mieux. J'ai eu ma période où j'ai quitté le nid familial où j'ai habité dans le 13e, donc c'est là que tu vois qu'en fait tes parents bah, ils sont grave importants, donc tu changes de comportement quoi, tu vois.
Et à l'école t'étais quel genre d'élève?
L'élève qui peut comprendre les choses mais qui fait pas d'efforts. Élève très turbulent en classe, qui veut toujours faire la blague, toujours faire des conneries quoi, tu vois. Et j'étais moi dans le délire de bêtises mais pour rigoler, pas bêtises pour faire mal, ouais, pas bêtises pour offenser. Non, j'étais très dans le, on était très dans les, dans des bêtises de sitcom. C'est ce que je veux dire, que tu peux voir dans des séries. Et après je vais pas te mentir que moi l'éducation nationale ça a été très très difficile pour moi. Je me voyais pas. J'ai eu mon bac et après c'est tout, au revoir.
Pourquoi difficile? À quel
Parce que je pense que pour moi, après, c'est ma vision à moi, c'est ma vision, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est mal fait. Je trouve que déjà, par rapport aux profs, tu sais, j'ai été surveillant après, tu peux comprendre que, tu vois qu'en fait, il y a des profs, en fait, ils ont grandi dans des endroits et d'un coup, tu les mutes dans le 93 ou dans le 94 alors qu'ils n'ont pas vécu là. Donc, ça veut dire qu'ils ont du mal à donner cours à des élèves qui n'ont pas les mêmes codes que toi et compagnie. En plus, le programme de certains cours, en vrai, qu'est-ce que tu me parles de Vercingétorix, en fait, tu vois? Pendant un moment, oui, ça existe, mais on n'en fait pas tout un chapitre, on s'en fout. Parle-nous de vraies choses. Les maths, il y a des choses que je ne comprenais pas, pourquoi on doit apprendre ça, alors que... En vrai, je pense qu'il y a des trucs qu'il fallait nous apprendre pour la vie, c'est-à-dire, après les études, comment tu vas remplir ta facture, comment tu vas remplir tes impôts, comment avoir un truc, comment travailler un bon entretien d'embauche, comment faire tout ça, tu vois? Ça veut dire que des trucs, en fait, c'est ce qu'il faut nous apprendre, des vrais trucs de la vie. Parce que quand tu arrives après... Parce qu'il y en a, ils arrêtent après le bac, ils vont direct tout à fait, mais ils sont confrontés à des trucs administratifs qui sont compliqués, quoi, tu vois.
T'as eu une relation conflictuelle avec les professeurs?
Non, j'ai eu des profs cool. J'ai eu un prof en seconde, c'est lui qui m'a fait découvrir le théâtre. Monsieur Akili, prof de français à Louise Michel dans 9-4 à Champigny. Mais sinon, ouais, non, j'ai eu... En fait, moi, j'aime pas le... Quand tu me donnes du respect, je te donne du respect. Et surtout... Sois cool, quoi. Tu vois, déjà que on est là de 8h jusqu'à 17h, même si on est jeune, c'est... Tu sais, moi, j'ai appris que, genre, aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays scandinaves, à 14h, c'est bon, les cours, c'est terminé, tu passes à autre chose. Nous, on est là, frère, j'étais en terminale, GRH, j'ai fait 8h de GRH. C'est-à-dire 8h midi, tu fais gestion des ressources humaines, tu reviens à 13h jusqu'à 17h, tu fais gestion des ressources humaines. Tu sais, ton cerveau, il peut plus. T'sais, donc, je trouve qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Et après, non, j'étais cool avec certains profs. Mais certains profs, ouais, je suis désolé, mais je les ai rendus ouf.
Et est-ce que tu avais la pression familiale de faut réussir à l'école, faut que ça se passe bien, ou tu avais des parents plutôt tranquilles sur ça?
Non, ils étaient très durs par rapport à ça. Moi, j'ai redoublé 3 fois, que tu saches, 3 fois pour faire général. C'est-à-dire qu'en 3e, on m'a dit tu vas en BEP à l'époque. J'ai dit non, général. J'ai retapé, je suis parti en général. J'ai retapé ma seconde parce qu'on voulait me réorienter en BEP. J'ai dit non, général. Et après, terminale, j'ai retapé parce que j'ai pas eu mon bac, donc j'ai refait. Mais parce que j'avais la pression de mes cousins, des cousines qui ont fait général, qui ont fait S, ES. Moi, j'ai fait S, TG, tu vois, j'ai rajouté des lettres après. Et non, pression de voilà, faire général et compagnie. Donc ouais, ça a été un peu la pression par rapport à ça. Et moi, j'ai rempli ma part du contrat quand je leur ai ramené le bac à mes parents. Et après, je leur ai dit, à partir de là, vous n'avez plus la main mise sur moi. Vous savez pas ce qui se passe après. Et chacun fait sa vie, quoi.
Ça y est, c'est fini.
Ouais.
Et à la sortie du bac, tu fais pas d'études sup.
J'ai fait 6 mois de BTS, assistant gestion PME-PMI. C'était la première fois de ma vie que je dormais en cours.
Ah ouais, c'est-à-dire ça te plaisait pas du
tout. De toute ma vie scolaire, alors que j'en ai fait des études de collège, machin, je n'ai jamais dormi une fois. Même si j'étais crevé, je ne dormais pas. Et là, c'était la première fois que d'un coup, je baisse ma tête et je dors pendant 2 heures. Et le prof me laisse, et à la fin, il y a un prof, Monsieur Armungom, je crois qu'il s'appelait, c'était notre prof principal en BTS, qui nous a convoqués, on était 3. Il nous a dit, bon, les amis, je tiens à vous dire que, bon, ça se voit que vous aimez pas. Écoutez, si vous voulez venir, vous venez. Si vous venez pas, on vous notera pas absent. Si vous voulez noter, faire le contrôle ou pas, bah, faites-le. Si vous voulez qu'on vous note pour le dossier, vous nous le dites. Mais voilà, ça se voit que c'est pas pour vous. Dès qu'il m'a dit ça, je suis plus revenu.
Plus du tout?
Plus du tout.
Et comment tu prends la décision de plus revenir, et est-ce que tu en parles avec tes parents?
Je crois qu'après le bac, moi, mes parents, ils ont capté que j'allais en cours, mais après que j'ai stoppé... moi, je leur ai dit que j'arrêtais. Je crois qu'ils m'ont pas pris la tête. Et j'ai fait une année de. J'ai travaillé, j'étais assistant. Comment on appelle ça? Auxiliaire de vie dans une classe. Ça s'appelle une CLIS. C'était des classes où il y avait des autistes, des personnes handicapées et compagnie. Et des enfants handicapés. Il fallait les aider pour travailler et tout. Je faisais ça. À côté, j'étais animateur. Et à un moment, je traînais beaucoup en bas d'un bat au Bois Labbé. Il y a un moment, c'était ma mère qui me dit, au lieu de traîner là, pourquoi tu vas pas faire une école de théâtre? Car moi, je suis en train de regarder partout, elle me dit, ouais, c'est une caméra cachée ou quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Et en fait, non, elle m'a dit, vas-y, tu fais du théâtre d'improvisation, pourquoi tu fais pas une école de théâtre? Comme ça, au moins, tu as des horaires et tout. Et je te jure qu'un soir, j'étais là avec les poteaux en bas du bâtiment, je réfléchissais, je me suis dit, mais attends, mais là, il y a une descente là. Parce que je sais ce qui se passe dans le bat, tu vois. Il y a une descente et compagnie, on m'embarque, je fais quoi en fait? Je suis là, je suis même pas dans leurs histoires, je vais prendre pour eux, je sais pas ce qui va arriver après. Vas-y, je me suis barré du jour au lendemain, ils m'ont plus revu les poteaux. Et j'ai travaillé en tant que surveillant, et après j'avais mes cours du soir au théâtre sur Paris. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître la vie parisienne et tout, quoi.
Okay. Et pendant que tu étais auxiliaire, ça t'a appris quoi ce métier-là? Parce que tu le disais, t'es avec des enfants autistes, etc. C'est un métier très compliqué. Ça t'a appris quoi ce métier? Est-ce que ça t'a... Tu dirais, est-ce que ça t'a rendu encore plus mature pour la suite? Est-ce que ça t'a armé pour le reste de ton parcours?
Ça m'a armé. En fait, ça m'a appris la patience. Parce qu'il y a des enfants, les pauvres. Surtout, il y en avait une, la pauvre. On se prenait la tête pour qu'elle apprenne à lire. On était là pendant tout le trimestre avant les vacances, apprendre à lire et compagnie, elle apprenait. Et dès qu'elle revenait de vacances, elle oubliait tout. Donc ça veut dire retravailler et compagnie. J'avais un élève qui était le pauvre. Il avait un gros souci, il était orphelin avec sa sœur, elle venait de Russie, ils ont été placés en famille d'accueil, ça s'est super mal placé, tu connais des bails d'attouchement et compagnie, et tu voyais que le petit, en fait, il était complètement déréglé, quoi, tu vois. Donc il fallait gérer ses crises de colère, ses trucs et tout, tu vois. Il y en avait d'autres qui ont grandi, qui m'envoient des messages aussi des fois, sur Insta, qui suivent un peu, et ça me fait plaisir parce qu'ils ont, pour certains, ils ont trouvé du taf, ils ont trouvé leur vie et compagnie. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus, armé, on va dire, pour plus tard, c'est l'animation. Et j'étais avec une équipe d'animateurs incroyable, où j'ai appris aussi le théâtre avec eux, la vie, parce que j'avais des anciens avec moi. Donc moi, j'étais tête brûlée sur des sujets Et il m'expliquait que non, c'est pas comme ça la vie, en fait. Il y a des nuances, il y a ci, il y a ça. Donc ouais, ça m'a beaucoup appris. Le taf, ça m'a appris. J'ai fait, frère, j'ai fait chauffeur-livreur, j'ai fait VTC, j'ai fait...
T'en as fait des métiers quand même.
Ouais, j'ai travaillé dans les marchés, levé à 4h du mat pour aller déballer des stands à 5h, 6h dans des endroits, dans des villes. Donc ça, ça m'a un peu appris la vie aussi, tu vois.
Mais quand tu cites tous tes métiers, là, je note un point en commun. C'est des métiers où tu rencontres des gens, chauffeur VTC, auxiliaire, ouais. surveillant, etc. T'as toujours aimé les gens comme ça ou...
Ouais, c'est... Après, j'ai aussi travaillé chez mon père en tant que serveur, donc oui. En fait, t'as des situations où avoir des gens en face, c'est cool. Tu vois, et t'en as...
C'est relou.
VTC, c'était cool parce que des fois, tu pouvais rencontrer des personnes, tu rigolais, compagnie, tu les déposais. Marché, bah, fallait que tu déballes. Donc, c'était le travail de commercial. Venez acheter, machin. Et moi, je vendais des livres et des jouets pour enfants. Donc, c'est compliqué, tu vois. Je ne vends pas des légumes. Mmh. Je vends des trucs pour que la personne l'achète. Faut vraiment attirer le gars. Donc, tu présentes, tu rigoles avec les gens et tout. Et mes serveurs, vraiment, c'est la restauration, c'est compliqué. Parce que des fois, tu tombes sur des clients, voilà. Tu te dis, mais pourquoi tu me parles comme ça, en fait ? Désolé, on s'est trompé de commande, c'est bon comme toi. Tu vois, tu vas manger comme tout le monde. Donc, non, ouais, c'est des métiers où ouais, tu rencontres des personnes et il faut s'adapter, quoi.
Comment elle te vient la passion pour le théâtre ?
Comment elle me vient ? Elle me vient. Déjà, je me rappelle que c'était en 5e, quand j'étais à Stein. Il y avait un groupe de théâtre qui nous a fait faire un théâtre forum sur Molière. J'avais kiffé, mais après, c'est passé, parce qu'il n'y avait plus de trucs. Moi, en fait, il y a eu plein de trucs qui arrivaient. C'est que j'ai dansé, j'ai dessiné avant de connaître le théâtre d'improvisation. Et dans mon lycée, à Champlain, à Chennevières, il y avait une espèce de... Il y avait une association qui donnait des ateliers après les cours. C'est-à-dire, dès que tu termines à 17h, il y avait des ateliers de slam, de danse, de théâtre d'improvisation, de photographie et compagnie. Et moi, je suis rentré dans le slam parce que je rappais aussi. J'avais un groupe de rap à l'époque. Et le théâtre d'improvisation. Donc, des fois, je faisais une heure là-bas, une heure ici, une heure là. Et à force, je me suis rentré plus à fond dans le théâtre d'improvisation. Et j'ai grave kiffé. Et au fur et à mesure, après le bac, moi, j'ai intégré la troupe d'improvisation de ces profs qui me donnaient cours après les cours. Donc, ça veut dire qu'avec cette troupe-là, on est au Jamel Comedy Club. Ça fait 15 ans que je suis avec eux et tout. Genre.
Et ça t'a appris quoi, justement, l'improvisation ?
L'écoute, la répartie, savoir improviser sur des moments. Mais après, c'est un bien grand mot de dire que ça t'a appris quoi et tout, parce que... En vrai, moi, je suis une personne où je suis très... dans la vie, tu peux me voir, je suis un peu dans mon coin. Un peu pas timide, mais quand je connais pas, tu vois, je vais pas faire le... Je suis pas un gars extraverti, tu vois. Je suis extraverti quand je connais du monde. Par exemple, toi, on se connaît, j'aurais quelqu'un ici que je connais. Là, je vais balancer des vannes, on va rigoler, machin. Mais quand je suis dans un endroit, je connais une paire, je suis dans mon coin. J'observe, je regarde. Et comme je te disais, ouais, ça m'a appris des choses, mais dans la vraie vie, je vais pas utiliser, tu vois. Je suis très correct, c'est-à-dire que moi, je vais prendre mon ticket. Si les contrôleurs, ils arrivent, ouais, ton ticket, je l'ai pas, bah, tu m'as chopé, je vais pas t'inventer des histoires, quoi. Tu vois, donc voilà.
Et tu le disais après, du coup, c'est le théâtre, le vrai, avec les cours.
Ouais, j'ai fait une école de théâtre, ouais, 2 ans.
Comment ça se passe, cette école de théâtre-là ?
Ça se passe bien, j'ai rencontré mon meilleur ami avec qui j'étais en coloc dans le 13e, qui s'appelle Olivier Kissita, c'est un grand, grand comédien, réalisateur. J'ai rencontré cette personne-là, j'ai rencontré 2-3 têtes, mais après j'ai plus eu de nouvelles de certains élèves. Moi, le seul truc qui m'a apporté, c'est que grâce à ça, j'ai pu rencontrer des gens pour faire des courts-métrages. J'ai beaucoup plus appris sur le tas qu'avec l'école, tu vois. Et je vais pas te mentir que les 2 ans m'ont servi sur 2-3 trucs, mais après, pas grand-chose, tu vois.
C'est pas ce qui t'a formé
Non.
C'est quoi qui t'a réellement formé, du coup ?
Le théâtre d'improvisation et sur le tas. Moi, c'est sur le tas que j'ai
vraiment,
appris.
Vraiment, t'es un autodidacte, tu dirais de...
Ouais, voilà. Et demain, par exemple, là, j'ai passé un casting ce matin. Je sais que j'avais beaucoup de textes à apprendre. J'ai appelé un pote à moi qui est coach d'acting et qui m'a aidé, tu vois. Pendant 2-3 jours, on a travaillé. Tu sais, je suis plus comme ça, moi, tu vois. Me mettre des cours, des trucs comme ça, ouais. C'est plus quand t'es 25 chose, dans une classe, t'as la prof, elle est là, elle veut donner... elle donne l'exercice à un élève, donc l'élève fait l'exercice, mais s'il le fait pas très bien, donc tu peux perdre des une heure et demie sur lui. Toi, pendant une heure et demie, tu le regardes, t'es là, et pendant un moment, mon cerveau, moi je suis concentré vite fait. Hein. Donc faut vite que tu me tiennes, sinon Après, frère, j'ai jamais autant téléchargé de jeux sur mon iPhone que pendant ces années théâtre.
T'as toujours su ce que tu voulais faire ?
Ouais. Ouais. Moi, j'ai toujours su que j'ai envie d'être artiste, comédien. J'ai envie de faire du cinéma. Inch'Allah, avoir mon spectacle à moi aussi.
Inch'Allah.
Donc voilà, et créer des contenus, créer des choses, quoi.
Et est-ce que tu te dis c'est une dinguerie d'avoir presque réussi finalement à être ce que j'ai toujours voulu être ? Est-ce que des fois tu te poses, des fois t'es là, tu te dis oh, c'est un truc de ouf, j'y ai toujours cru, j'y suis.
Ouais, t'as des périodes où on a tous des périodes où on doute, où on dit ouais, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, ouais, j'en attends. Là, je suis dans cette période-là. Je suis dans cette période où ça avance pas comme je le souhaite. Et des fois, quand je réfléchis ou je parle avec des potes, on réfléchit, on se dit ouais, c'est vrai que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré telle personne, j'ai rencontré telle, je suis au Jamel Comedy Club, j'ai fait un jeu de société, j'ai créé un concept qui fait que ça fonctionne et qu'il y a eu des millions de vues et tout. Mais on n'est jamais satisfait, en fait. On est un être humain, tu vois. L'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Et moi, mon but, c'est le cinéma. Ça a toujours été ça. Mais je suis content du parcours et de ce que j'ai fait. Et Inch'Allah, que j'en fasse énormément encore, tu vois.
Et les gens autour de toi, est-ce qu'eux, ils sont fiers de toi ? Tes parents, tes sœurs, est-ce que...
Mes sœurs, ouais. Mes parents, je sais pas... J'ai des informations par le biais de mes petites sœurs. Genre quand mon père il va regarder une vidéo, il va rigoler en secrète, tu vois, mais il va jamais me le dire. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'il est un peu... Ils sont pas fiers, mais ils se disent, bon, il est pas perdu le gamin, parce que bah, quand il voit que voilà, je fais ci, je fais ça, que j'arrive à en vivre, que... De toute façon, moi, dès la première, j'ai jamais demandé d'argent à mes parents. Je me suis toujours débrouillé. À part vraiment quand je suis en galère de fou, je demande et après, je les rembourse, tu vois. Mais ouais, mais mon entourage aussi, mes amis, ouais, certains sont assez contents, assez fiers de ce que j'ai créé. Et voilà, ça fait plaisir. Donc ça te donne du boost et il faut continuer, quoi.
Tu peux être fier.
Merci, c'est gentil.
J'ai l'impression que tu es beaucoup sur la retenue sur ça. Et franchement, moi, je trouve que tu as fait, en tout cas, ce que tu as fait, c'est ouf. Donc, on va en parler là tout de suite, le concept tu ris, tu perds.
Ouais.
Je suis parti sur ton LinkedIn et j'ai repris ta bio que je vais lire. Je me présente Aziz, 35 ans, moi et ma force créative. J'ai pu développer au fil des ans des talents variés, humoriste, comédien, maître de l'improvisation et producteur. J'ai pu gagner en notoriété sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos humoristiques captivantes et l'esprit brillant derrière le phénomène YouTube. Tu ris, tu perds. Ce concept viral s'est transformé en un jeu société intitulé Tu ris, tu perds, édité par la prestigieuse maison d'édition Du Jardin. C'est eux qui ont fait les 1000 bornes.
Ouais, 1000 bornes, ils ont fait Burger Quiz, ils ont fait tout ces
jeux. J'ai une dinguerie. Depuis 2019, ce jeu connaît une ascension fulgurante, récoltant éloges et succès. Lors des événements Tu ris, tu perds chaud, je produis et deviens le maître de cérémonie, garantissant rire et mémorable divertissement. Déjà, on va commencer par la création de Tu ris, tu perds.
Ouais.
T'imagines ce truc-là en 2017, comment ça se passe ? Comment c'est un truc, parce que le truc il prend vraiment de l'ampleur.
Ouais.
Et dans ta tête, comment ça se passe cette création-là ?
Bah, dans ma tête, pour te dire, à cette période-là, j'ai sorti la première vidéo en août. Juillet, j'allais tout arrêter, moi. Juillet, j'allais tout stopper. Je venais de prendre ma carte de VTC. J'étais en train de voir pour faire un crédit pour une voiture. Commencer à mettre de l'argent de côté pour mes productions de courts-métrages et compagnie. Je faisais beaucoup de vidéos Vine à une période, Insta, mais ça avançait pas, ça prenait pas de ouf, j'étais pas connu. Tu vois, vite fait, c'était vraiment c'était une niche, quoi, tu vois. Et comme je disais dans une interview, j'étais là, je scrollais sur Facebook, et à une période, on partageait beaucoup de jokes de papa. Jokes de papa, c'était les Québécois qui le faisaient. Et je sais pas, je regarde, et d'un coup, je regarde le... Tu sais, je mets longtemps à regarder parce que je vois plein de gens qui le partagent et j'étais dans le truc, ah, vas-y, j'ai pas envie de regarder, c'est bon. Et à un moment, je fais, putain, tout le monde le partage, je regarde. Je check, je vois le truc et je vois, c'est archi gaulerie, je vois, c'est simple à tourner, je vois, c'est tout le monde rigole, c'est-à-dire même les techniciens, même lui qui est derrière la caméra, là, il peut rigoler, il n'y a pas de truc. Je fais, bah vas-y. Et j'appelle un pote, je dis, vas-y, viens, on fait cette vidéo-là. Un pote à moi avec qui je faisais des vidéos. J'appelle Fred, avec qui je suis avec lui depuis des années. Entre temps, je capte Oumar Diaw et Malik parce qu'on traînait une période ensemble. Je fais, venez, on fait cette vidéo là et tout. On fait la première, je la monte, tout ça. Je la balance sur Facebook, je vois, ça prend. Je vois, ça commence à monter à 200 000, 300 000. Je vois, je fais, ok, cool. Je mets sur YouTube, ça commence à prendre aussi, tu vois. Je vois les gens, ils me disent, ouais, round 2, tu vois. Je fais, vas-y, je fais le round 2. Je vois, ça pète. Et je vois, après, on me dit, ouais, le round 3. Et je commence à y aller, j'y vais. Et je vois le round 3, il fait 1 million en même pas 24 heures. Je fais le quatrième, elle fait 1 million, et elle monte à 2 millions en même pas 24. Je fais, ouais, je tiens un truc en fait. Et vas-y, je continue. Je fais un spectacle, tu récupères show au Comedy Club, qui les places se vendent en même pas 14 heures. Tu vois, je suis là, je me dis, wesh, en fait, on tient un truc. Et vas-y, let's go, on avance. Et depuis, j'ai pu vivre de ma passion avec YouTube, des partenariats qui arrivent et compagnie. Et VTC, je l'ai vite oublié, quoi.
Du jour au lendemain, ça y est, VTC.
Ouais, parce que je me dis que j'ai un truc.
Vraiment que ça prenne.
Ouais, mais en fait, c'est un truc que j'ai pas calculé, en fait, tu vois. De toute façon, les trucs qui fonctionnent, c'est des trucs que la plupart, hein, c'est des trucs où tu te prends même pas la tête. Tu te dis, vas-y, je le fais en bon délire et ça prend. Des fois, c'est ça, en fait, sur Internet, ce qui est incroyable, c'est... On dirait les gens, ils le sentent et on dirait ils le font exprès, les bâtards. C'est-à-dire que t'es là, tu te prends la tête à faire un court-métrage carré, propre, avec des acteurs, des dialogues, machin, ça te fait 10 000 vues. Tu fais un truc avec ton téléphone, à l'arrache et compagnie, tu balances comme ça, juste pour faire du contenu, ça te fait 3 millions. Tu te dis, mais en fait, ils veulent quoi, en fait, tu vois. Et tu récupères, c'était vraiment ça, c'était 3 caméras... Deux contre-champs, un en plan large, t'as juste à découper, tu prends les bons moments en blague. Moi, j'avais vu qu'eux, ils racontaient les blagues, moi, j'ai rajouté l'eau dans la bouche. Et après, je me suis dit, vas-y, on va durcir le truc, on va rajouter des gages. Et c'est ça qu'en fait, qui a pris. C'est que les gens, ils aimaient bien quand on se faisait mal. Ils aimaient bien le côté de Jackass, un peu, le côté Michael Youn, les 11 commandements, tu vois. Et je fais, vas-y, let's go, et ça a pris, quoi.
Et comment toi, tu l'as vécu quand t'as vu que ça a pété sur le moment, comment tu vis ça?
Au début, c'était, comme je disais, c'était sur Paris, donc c'était une niche, donc les gens, ouais, machin, c'est cool, machin. Quand j'ai fait avec le PSG, quand j'ai commencé à faire avec le PSG, c'est celle-là qui m'a fait propulser nationalement, on va dire. Là, j'arrive, on fait un événement, je suis speaker dans un événement de break, à Liévin, dans le Nord, et je me rappelle, il y avait, c'était Fianso qui était là, tu vois. Il faisait un showcase, et je me rappelle, frère, je faisais... V'là les photos avec des gens, j'avais ramené Fred et tout, et les gens c'était comme des fous. Tu récupères ça le truc? Et les gens, ouais, tu récupères machin, truc, photo, truc, ça commence à prendre de l'ampleur. Je vois, il y a Malik qui me dit, je suis parti à Grenoble, frère, on ne m'arrête pas de m'arrêter, machin. Je fais, ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, c'est la vidéo du PSG qui m'a fait propulser nationalement, et c'est là que j'ai vu qu'en vrai, ouais, on a créé un bordel, quoi, tu vois.
Et comment s'est fait cette rencontre justement avec le PSG? Parce que c'est ouf de se dire, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de faire des vidéos avec les joueurs du PSG et de rentrer.
En plus, c'était l'année où il a signé Mbappé.
2017.
Ouais. Et avec Neymar. Je pouvais pas avoir Neymar parce qu'il comprenait pas le français. Mais jusqu'à maintenant, il comprend toujours pas ce bâtard. Et en fait, j'arrive, c'était un dimanche, je te dis la vérité, c'était un dimanche. Je me réveille, je vois mon portable, je vois un mail. Et je vois, oui. Je suis directeur marketing du PSG, on aimerait bien faire une vidéo, tu récupères avec vous et
c'est
tout.
Eux en plus
c'est eux qui m'ont contacté. Et je vois ça, j'envoie ça à mon ancien agent, je dis hey, regarde ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un fake? Elle me dit non, c'est un vrai mail, c'est Anthony Bacca, machin. Je fais ok, d'accord. Je les rencontre et ils me disent ouais, non, on a grave kiffé. À la base, on voulait le faire entre nous, dans les vestiaires, mais on s'est dit pourquoi pas appeler le mec. Et j'ai respecté, j'ai dit déjà que je suis fan du PSG, déjà vous me respectez encore plus. J'ai fait vas-y, let's go. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi, tu vois.
Et c'est derrière ça, comme tu le disais, ça t'a propulsé nationalement.
Ouais.
Mais est-ce que au moment où toi tu rencontres les joueurs du PSG, est-ce que toi tu te dis ouais là ça y est j'ai...
Non. Moi j'ai toujours dit le jour où je... et même de toute façon même quand tu fais v'là les films t'es jamais arrivé parce qu'à tout moment tout peut s'arrêter, ta hype elle peut partir et faut toujours créer tu vois. Moi je sais que j'ai eu ma hype avec Tu récupères, à un moment ça s'est arrêté parce que c'est moi qui a voulu arrêter parce que je pense que je vais pas faire Tu récupères toute ma vie. J'aspire à faire des films, des séries et tout. Je sais que cette hype, elle est partie, mais je vais la recréer. Je la recréer avec d'autres projets et compagnie. Et moi, je me dis, le jour où j'arriverai vraiment, c'est quand je ferai des films au box-office. On verra ma tête dans des affiches, que je ferai mon spectacle et que je ferai une tournée nationale ou dans les pays francophones. Ouais, je pense que j'arriverai, mais même ça, pour moi, arriver, c'est un bien grand mot, tu vois. Je pense qu'arriver, c'est avoir une famille, avoir des gosses, et c'est ça, être arrivé dans la vie, tu vois.
Je disais.
Oh, pardon, désolé. Bonjour. Ça va?
Maëva, celle qui gère la com de la radio.
Ok, j'ai vu, elle était.
C'est elle qui va beaucoup te mentionner ce soir.
Ok.
Pour partir. Du coup, comme tu le dis, arriver, c'est avoir une femme, des enfants. Mais encore une fois, je me permets, moi, je
trouve dans la vie artistiquement sur ces choses.
Mais je trouve que tu es très modeste, en tout cas, sur ton parcours. Du cinéma, tu en as déjà fait, en plus, cinéma, télé. Il y a Visitor, saison 1.
Ouais.
Access, saison 1. Les Lascar, la saison 2. Engrenage, bah, pour ceux qui te cherchent, tu es dans l'épisode 4, saison 5.
Exactement.
Comme ça, c'est précis. Est-ce que pour toi, tout ça, ça constitue quand même des réussites?
Ouais, on va dire que c'est un petit bagage, tu vois, mais. Ouais, c'est je vais pas dire réussite parce que je peux pas dire que c'est une réussite, c'est on fait notre travail quoi, on fait, je fais mon petit bonhomme de chemin quoi, tu vois. Et ce que tu m'as énuméré, à part Visitors, le reste c'était des petits rôles, tu vois. C'est des rôles où on m'appelle mec 1, mec 2, tu vois ce que je veux dire. Mais Visitors, j'avais vraiment un blaze, tu vois, c'était Sinoc, j'étais un rôle récurrent et compagnie. Là j'étais grave content, dommage qu'il n'y a pas eu la saison 2. Je sais pas s'ils vont, peut-être ils vont faire la saison 2, je l'espère, je croise les doigts, parce que c'est une vraie série, c'est une putain de série. Belle série française et tout, de genre. Et voilà quoi, et Inch'Allah, voilà, je fais d'autres projets avec des bons rôles et tout quoi.
En 2019, Tuerie tu perds, vous décidez de l'adapter en jeu de cartes. Ouais. Comment elle te vient cette idée, encore une fois? C'est un travail d'équipe, c'est solo. Comment vous vous dites, on passe d'un format vidéo YouTube à des cartes? Parce que ça aussi, c'est encore différent. Il faut attraper encore un autre public. Comment ça se passe dans votre tête?
Ça se passe que c'était avec l'arbitre, M. Bessam Amadi, qui me soumet cette idée-là et tout. Je lui dis, vas-y, let's go et compagnie. J'en parle aux gars. Bon, les gars, ils étaient chauds, mais je n'ai pas eu de retour avec eux parce que je voulais faire ça en Indé, tu vois. Je ne voulais pas passer par une boîte d'édition. Et je ne vais pas te mentir que ça a mis 3 ans avant que le projet il se mette en place. Parce que depuis 2017, en fait, depuis la troisième vidéo, on se dit, vas-y, on fait un jeu de société, tu vois. Et ça a mis 3 ans parce que bah, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'avec M. Bessam Amadi, l'arbitre du jeu, bah, on a eu quelques frictions qui fait que bah, le chemin se sépare. Moi, j'avais ce projet-là et je ne voulais pas le lâcher. Et à un moment, je le mets dans le placard et je l'oublie. Et la vie, en fait, c'est la vie fait qu'un jour, il y a un pote à moi, il m'appelle, il me dit, ouais, je fais ma crémaillère. Je fais, vas-y, j'y vais, je vais au fond du 77. Dans cette crémaillère, je recroise une ancienne amie du lycée, on parle, on discute, et elle me parle, ouais, qu'est-ce que tu fais, Aziz? Bah, écoute, je fais ça. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Et elle me dit, bah, écoute, moi, je travaille chez TF1. Ah, je fais, ah, tu es dans la programmation? Non, je suis TF1, côté jeux de société, chez Dujardin. Ah bon? Je fais, bah écoute, est-ce que ça te dit que je t'envoie un dossier et tu me dis ce que t'en penses? Elle me dit, ouais, parce qu'en fait, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. Elle me dit, bah vas-y, envoie-moi. Je lui envoie le dossier directement le soir même. Elle rentre chez elle, deux jours après, elle m'appelle, elle me dit, ouais, t'as rendez-vous avec ma boss. Je fais, ok, direct, j'y vais, je vais avec mon manager et après on discute et le projet se fait, quoi, tu vois.
C'est super lourd. Mais est-ce que. La force, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui fait les choses derrière, parce que je suppose que sur ton chemin, tu as aussi rencontré des gens qui peut-être t'ont promis des choses et les ont pas fait derrière. Comment, en créant nous notre émission, c'était vraiment ça, enfin, faire véhiculer ces petits messages aux jeunes à gauche, à droite, comment on surmonte ce genre
des,
de choses?
Des gens qui vont te donner, des gens qui vont te promettre monts et merveilles, qui vont t'inventer des vies et compagnie, tu vas en avoir sur ton parcours, n'importe quel parcours. Hein. Même si demain tu veux ouvrir une boulangerie, tu vas tomber sur un mec, ouais, je connais un local là-bas, t'inquiète pas, on est ensemble. Et à la fin, le mec, tu le vois plus. Tu vois ce que je veux dire? Des gens comme ça, tu vas en recevoir. Moi, j'ai eu des trucs comme ça, des mecs qui m'ont promis que je vais faire un film alors que jamais je l'ai vu, le gars, tu vois. Et j'ai jamais vu le scénario. Des mecs qui m'ont dit, oui, t'inquiète, on va faire ce projet-là de jeu de société. Et à la fin, au moment où il faut mettre l'étal, ils sont plus là. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens comme ça, tu vas en avoir, des mecs qui vont t'inventer des trucs. C'est juste à toi d'analyser la personne. Et surtout de pas s'avancer, quoi, tu vois. C'est ok, d'accord, tu me promets ça, bah vas-y, bah, on va voir. Moi, j'avance de mon côté, j'écris, c'est à toi de me montrer, quoi, tu vois. Donc, des gens comme ça, tu vas en avoir, mais tout le temps, toute ta vie, même des gens qui sont déjà arrivés, qui sont tombés sur des personnes qui vont leur dire, ouais, j'ai un truc pour toi, alors que ça va jamais se faire. Il y a toujours des parasites comme ça. Dans n'importe quel chemin, tu auras toujours des parasites, tu auras toujours des mecs qui vont t'inventer. Monts et merveilles parce qu'il y a la lumière, parce que il cherche la fame, parce qu'il pense qu'il va avoir de l'oseille. Donc c'est juste à toi, à un moment, excuse-moi du terme, hein, du mot que je vais utiliser, mais tu vas te faire niquer à un moment tu vas te faire avoir et faut l'accepter et faut revenir sur ça, faut se relever parce que des échecs on en aura plein et heureusement qu'on a des échecs parce que si on n'a pas d'échecs tu vas jamais apprendre de tes erreurs, tu vois. Donc, heureusement que tu as des échecs, et j'en ai eu plein, et j'en aurai encore. Et il faut juste prendre ces échecs-là, et tu te dis, OK, là, j'ai mal fait ci, bah, je vais mieux le refaire la prochaine fois. Tu vois. Là, j'ai fait confiance à cette personne-là, bah, la prochaine fois, je ferai beaucoup plus attention. Ah, là, j'ai travaillé avec lui, j'ai pas fait de contrat, et il a commencé à me parler, bah, la prochaine fois, je ferai un contrat. Même avec mon père, ma daronne, je ferai un contrat. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain, quoi, tu vois.
Et justement, quand on commence un peu à réussir, à péter, je suppose qu'il y a... tu commences à recevoir aussi un peu d'argent qui rentre. Comment on s'arme ? Comment on s'entoure ? De qui on s'entoure ? Comment on fait le choix de choisir ? Par exemple, tu le disais, tu as un agent, il faut que je choisisse un agent, il faut que je choisisse les bons amis. Comment tu crées ce cercle autour de toi ?
Ce cercle, il se crée naturellement et il se défait naturellement. C'est parce qu'à un moment, bah, tu as des ambitions et les personnes qui sont autour de toi, à un moment, bah, ils ne vont pas avoir les mêmes ambitions que toi, voire même... ils pensent que tu es toujours au même stade. Et quand tu commences à monter, bah, le comportement va changer. Excuse-moi.
Je t'en prie.
Le comportement va changer. Donc, c'est juste à toi d'avancer. C'est juste à toi de peser le pour et le contre. Et surtout, de plus avoir d'affect, en fait. Parce que, frérot, je ne vais pas te mentir. Oui, c'est ton pote. Oui, tu as peut-être traîné avec lui. Mais à un moment, toi, tu as des projets personnels. Tu as des projets perso, professionnels aussi. Et cette personne-là, si elle n'est pas dans le même mood que toi et elle n'a pas faim comme toi, elle va pas t'aider. Tu vois ? Tu vois, c'est la vérité. Tu as des potes à toi, ils sont cool, c'est des bons délires. Tu es avec eux H24. Mais à un moment, bah, quand tu as envie d'avancer, tu as l'impression qu'il y a un poids, quoi, tu vois ? Donc à un moment, il faut savoir se détacher. C'est encore un taf que je fais sur moi-même parce qu'il y a des amis que j'aime énormément. Tu vois, j'ai des frères, mais tu sais, à un moment, il faut s'écarter, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu les aimes pas, c'est juste que tu dois avancer. Et c'est tout, quoi, tu vois. Mais. Franchement, j'ai rompu énormément d'amitiés. C'est pas pour autant que si je les croise, c'est pas des gros câlins, c'est je les kiffe et tout, mais à un moment, faut avancer. Et créer ton cercle, bah, comme je t'ai dit, ça se fait naturellement et ça se fait avec ton expérience. Et aussi, des fois, je comprends qu'il y a des gens, tu sais, quand par exemple, tu parles de joueurs de foot et compagnie, un frère, ils ont deux personnes autour d'eux. Hein. Ils font grave attention parce que tu savais, à tout moment, tu peux être ami avec tout le monde et. Tu dilapides ton oseille, tu dilapides tes gens pour rien, quoi, tu vois. Donc, et faire attention.
Tu nous disais, il y a des gens qui changent quand tu as de la notoriété. Il y a Aboutal qu'on avait reçu juste avant toi qui disait la même chose. Quand tu commences à un peu péter, ton cercle autour de toi, il change. Est-ce que toi, tu as ressenti ça, des gens qui, autour de toi, étaient plus les mêmes parce que tu avais percé ou des gens, il y a un médecin là aussi qui disait dans une interview très poignante, qui disait que ses amis d'enfance, ils lui disaient « Ouais, Ahmed, t'as changé », alors que lui, en fait, non, c'est toujours le même. C'est juste que maintenant, il est un peu plus connu. Est-ce que toi, t'as ressenti ça ?
En fait, il y a le mot « Ouais, t'as changé », je la trouve un peu... t'as changé ? Non, j'ai pas changé, j'ai toujours la même gueule, je suis toujours pareil. J'ai évolué, poteau. C'est pas la même chose. C'est en fait, ils ont peur de dire « T'as évolué ». Donc, t'as évolué, donc on n'est plus dans la même longueur d'onde, dans le truc. Mais oui, j'en ai rencontré des gens qui, par rapport à Thierry Tupper, deviennent super cool et compagnie. Et quand la hype est partie, bah, je les ai plus revus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas grave, faut l'accepter. Et à un moment, bah, ils vont revenir quand tu vas refonctionner. Sauf que c'est à toi de leur faire rappeler que hey, tu te rappelles quand on partageait le café ensemble et là, maintenant, tu reviens, c'est bizarre. Tu vois ? Ou même pas, des fois, j'en parlais avec un pote à moi, il s'appelle Sofiane Soche. Un petit humoriste qui va péter très très prochainement, vous allez entendre son blaze très très prochainement. Il me disait, ouais, mais t'as vu, lui, maintenant il me calcule parce que j'ai réussi ça. Moi, je vais leur dire, je fais non, tu leur dis rien. Le seul truc que tu vas leur dire, c'est ton taf. C'est ta réussite. C'est comme ça que ta réponse. Après, s'ils viennent te reparler, bah, tu leur reparles. Mais par contre, tu feras plus les mêmes tafs qu'avec eux, tu vois. Donc oui, les gens, ils changent. Après, moi j'ai... Je sais pas si c'est... ce syndrome comment on appelle ça là, de l'imposteur ou quoi que ce soit, mais pour moi j'ai fait un gros truc, j'ai fait un truc qui a fonctionné, mais c'est pas pour autant que les gens vont changer, quoi, tu vois.
C'est normal, il y a rien de...
Ouais, c'est tranquille, tu vois. Donc moi dans ma tête, je suis pas à ce niveau-là, et même si demain je pète, bah je ferai attention et voilà, quoi. Alhamdoulilah, j'aurai réussi, mais je serai pas j'essaierai d'être pareil. C'est pour ça que je dis à des potes, le jour où je change, vous mettez une tétard. Et je vais le comprendre, pas besoin de me parler. Vous mettez une teutard et je vais comprendre.
En 2019, justement, il y a la polémique autour du jeu.
Non, pas 2019, c'est l'année dernière.
Il est formé en 2019, ouais, il sort en 2019, pardon, il est commercialisé en 2019. Et l'année dernière, justement, à cause de l'humoriste Crazy Sally, il y a...
C'est pas une humoriste.
La blogueuse Crazy Sally,
ouais, voilà, une influenceuse, une lanceuse d'alerte. Quoi, ouais.
Qui voyage beaucoup. Il y a cette polémique autour du jeu, blagues racistes, certaines blagues, etc. Comment toi, tu as vécu ça? J'ai vu un spectacle que tu as fait plus tard où tu expliquais que wesh, moi, raciste, les gars. C'est... Mais comment toi, tu l'as vécu? On t'a même invité, et tu le disais dans le sketch que j'ai vu, à Touche pas à mon poste, et tu disais de débattre d'un sujet aussi sérieux que le racisme devant Affida Turner.
Non. À cette période-là, c'était Affida Turner qui invitait en tant que chroniqueuse. C'est pour ça que j'avais cité ce truc-là. Écoute, comment je l'ai vécu, je l'ai super, super mal vécu, frérot. T'arrives du jour au lendemain, t'as créé un truc, il y a une meuf, elle vient, elle fait une vidéo sur toi, elle te fait passer pour un raciste, alors que, frère, en fait, j'étais là, je me suis dit, je vais pas faire cette vidéo pour dire, moi aussi j'ai des potes noirs. Non, frère, j'ai des potes de toutes les couleurs autour de moi, je suis pas du tout raciste, et c'est des blagues qu'on se raconte dans les quartiers depuis longtemps. Je l'ai fait en vidéo en 2017, tout le monde a rigolé, j'ai commercialisé le jeu en 2019. C'est maintenant que vous vous réveillez. C'est quoi? C'est avec ce système progressiste du wokisme, de je sais pas quoi, que maintenant, en fait, on peut plus rien dire. Pendant un moment, si vous voulez qu'on vive dans ce genre de monde, créez votre univers, créez votre ville, vos trucs, où il n'y a pas d'humour, et vous restez entre vous. Nous, on fait des blagues où je pense qu'on a heurté personne. On tape sur les Arabes, sur les Noirs, sur les Asiates. On parle sur tout le monde, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et on en rigole. Tu vois le délire? Et j'en ai fait un jeu. Si vraiment c'était raciste et compagnie, tu crois vraiment que Dujardin allait commercialiser ça? Tu vois? Et ça m'a fait énormément de mal parce que je l'ai vu 3 jours après, cette Sally. Je l'ai vu 3 jours après, et 3 jours après, elle était gênée devant moi, en fait. Parce qu'elle connaissait des gens qui me connaissaient, dans l'équipe Smile et compagnie. Tout le monde me connaît. Elle connaissait pas mon taf. Et elle était gênée parce qu'elle se disait, ouais, mais je savais pas, en fait. Hein, je fais, mais cousine, moi, en fait, j'aime bien ton taf. J'ai toujours kiffé ton taf parce que des fois tu tapes sur des trucs et tu racontes des trucs qui sont vrais. Des vrais trucs. Moi, je partage. Mais là, tu as fait un truc sur moi où tu m'as même pas contacté. Si tu fais un taf de lanceuse d'alerte ou de journaliste, tu contactes la personne d'abord. Si la personne elle te répond pas, tu contactes son manager. Si son manager ne répond pas quoi que ce soit, là tu fais ta vidéo. Mais elle m'a dit ouais, mais c'était un peu je sais pas si frère, t'as la pastille bleue. À l'époque, j'avais même pas 30 000 abonnés. Une pastille bleue, je le reçois, tu m'envoies un message, bim, on parle, on discute, je t'explique d'où c'est venu mon idée, comment c'est, machin, notre ambiance, et je pense que t'aurais même pas fait de vidéo. Et après, on a discuté, on a parlé sur plein de trucs, on s'est entendu, mais je lui ai dit, c'est trop tard. J'ai dit, ouais, là, on parle 3 jours après, là, t'es gêné, mais ce matin, à 8h du mat, je passe sur BFM, en disant à Aziza Boudrar qui véhicule des clichés racistes et compagnie. Cousine, c'est chaud, quoi, tu vois, pour des blagues. Tu vois, on en est là, en fait, c'est des blagues. J'ai pas insulté votre daronne ou une religion ou je sais pas quoi. On parle de tout. On parle des clichés sur les Arabes, les trucs et compagnie. On en rigole. C'est comme ça qu'on... Et j'ai reçu des messages de mecs de cité, comme des personnes qui sont à l'hôpital, des personnes qui étaient tétraplégiques, qui ont tapé des barres sur mes vidéos, où ils ont passé des bons moments. Encore là, je te jure, je te montre un message que j'ai reçu il y a 2 jours. Une daronne qui m'a dit son enfant, il est autiste. Il se tape des barres en s'en étouffant, à s'étouffer devant mes vidéos. Et elle a dit, ça fait longtemps, je ne l'ai pas entendu rire.
C'est une dinguerie.
Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu arrives, tu me dis, je suis raciste. Ah, frère, pendant un moment, il faut doser, en fait, avec l'alerte, tu vois. Et surtout, moi, je trouve que c'est dommage de taper quand on est entre nous, tu vois, notre communauté. Déjà qu'on a du mal à s'affirmer sur cette société. On a du mal à se montrer, à faire les choses bien. Mais les premiers qui nous tapent dessus, c'est notre communauté. Quand je dis notre communauté, c'est arabe, noir, asiat et compagnie, cette diversité-là. Pourquoi on fait pas des trucs pour se mettre en avant? Tu vois, pourquoi on fait pas des trucs pour rassembler, pour dire, regardez, lui, bon, il a fait ça, pas cool, mais regardez ce qu'il a fait avant. Il a quand même fait ci, ça, tu vois. Je trouve ça dommage.
Et comment ils l'ont vécu, tes proches autour de toi?
Daron, elle a flippé. Ça qui, en fait, qui m'a saoulé, c'est que c'est arrivé jusqu'à aux oreilles de mon père qui capte pas les réseaux, qui voit plein de gens qui m'insultent et compagnie. Il pense que ça va arriver jusqu'à chez lui. Moi-même, je flippais, je vais pas te mentir, je te dis la vérité, frérot. J'habitais dans le 13e quand c'est arrivé. Quand je sortais, mon bâtiment, il y a des renois, il y a des rebeux. Je te jure, quand je croisais le regard d'une maman africaine ou d'un daron ou d'un jeune renois ou d'une jeune fille, je pensais qu'ils avaient vu la vidéo et qu'ils allaient m'incendier, en fait, tu vois. J'étais dans un truc paranoïaque, tu vois. Et en vrai, non. Parce qu'en fait, j'ai reçu après plein de messages de soutien. J'ai vu que sur Twitter, ils étaient tous avec moi. Parce que Twitter, c'est quand même le réseau du diable.
C'est le réseau des méchants.
Ah, c'est le réseau des méchants. Donc si tu fais quelque chose de méchant, ils vont pas de truc. Et ils m'ont tous défendu en mode « calme-toi, moi, cette blague-là, elle m'a fait rire. Celle-là, ça m'a fait gaulerie, tu vois ce que je veux dire ?» Bon, sur la vidéo de Sally, dans les commentaires, c'est sa communauté. C'est normal qu'ils vont la défendre et compagnie. Et j'ai reçu 2-3 messages qui disaient que non, il faut arrêter, machin. Et sur d'autres pages où les gens ils étaient en mode « oui, bon, on peut rire de tout, machin ». D'autres « ouais, non, pas du tout ». Et d'autres en mode « calmez-vous, c'est des blagues ». Tu vois ? Donc moi, c'est dommage parce qu'après, moi, ils ont retiré le jeu de Auchan, de Carrefour.
Jouer club,
ça m'a coupé en fait mon entrée d'oseille, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, c'est que tu pointes du doigt sur un taf que... y en a beaucoup des Rebeux et des Renault qui font des jeux de société en France.
Comme ça, ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi t'en sens pas ça ? Pourquoi tu te dis pas, le poteau, regardez, il est arrivé de nulle part, il fait un jeu de société. Tu vois, il est au même niveau que Milborn et compagnie. J'ai vendu plus de 100 000 éditions, 100 000 boîtes. Ça veut dire que le truc, il fonctionne. Parle de choses positives. On est dans une vie, en fait, on arrive dans une société où le négatif, en fait, ça fait vendre, frérot. Hier, je regardais une interview de Kev Adams. Poteau, tu t'imagines que toute sa vie, c'est des critiques.
Ouais, c'est chouchou.
Alors que le mec, il bosse. Tu vois ce que je veux dire ? Même s'il fait un truc, les gens, avant même de regarder, le critiquent. En fait, c'est malheureux. On est dans un monde... Je dis pas qu'il faut un monde de bisounours, mais il faut un monde, poteau, où à un moment, il faut y des nuances, quoi. Et avant de juger une personne, regarde ce qu'il fait. Et après, tu fais ton truc. C'est pas parce qu'elle, elle l'a dit, parce que tu l'as suivi sur les réseaux, que t'es son soldat, hein. Peut-être qu'en fait, un jour, elle va dire une dinguerie et qui va te heurter. Et là, bizarrement, tu vas changer, tu vas l'unfollow, tu vois. Donc, faut doser, quoi, tu vois. Et ouais, cette période-là, c'était compliqué, tu vois.
Après ça, vous décidez, en tout cas, en équipe, de retirer certaines cartes.
Ouais. Sur ça, je ne vais pas te mentir qu'il y a eu 2-3 blagues où c'était un peu limite, tu vois. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai que, par exemple, la blague plusieurs Renois dans un car, c'est un car louche. Tu vois, car louche, et ça fait kahlouche, tu vois. C'est vrai qu'aussi le mot kahlouche, même si ça vient du mot khal en arabe, qui veut dire noir, tu vois ce que je veux dire, c'est comme black, ça veut dire noir, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que kahlouche, ça a été très péjoratif, comme le mot beurette et compagnie. Je l'ai enlevé. C'est vrai, on est en 2024, il faut enlever. Il y a des trucs qu'il faut enlever. Par contre, je vais pas me censurer sur 2-3 blagues. Hein. Tu vois, frérot, moi je suis un rebeu. Si je veux dire un truc sur les rebeux, je vais le dire. Et il y a des Renault aussi, si je veux dire un truc sur le Mali ou la Gambie ou un truc comme ça, je vais le dire. Parce que frérot, je connais cette communauté, j'ai vécu avec eux, et poteau, c'est bon, on rigole.
Tu décides de rééditer le jeu, est-ce que ça marche aussi bien que la première fois ?
Ça a bien fonctionné, ouais. Ça a bien fonctionné, alhamdoulilah. Et voilà quoi, ça se vend toujours, et ils sont assez fiers, ils sont assez contents, parce que de janvier 2024 au 17 juillet 2024, il n'y avait rien. Janvier 2023 à juillet 2023, il y avait R et là c'est ressorti et ça reprend, tu vois. Donc mais je l'ai dit, hein, j'ai dit que si j'ai pu heurter des gens, désolé.
T'as fait un message d'excuse.
Bien sûr, j'en suis désolé, mais c'est pas le but. Cousin, j'ai fait des vidéos en 2017. Si vraiment ça heurtait les gens, j'aurais fait une polémique en 2018. Tu vois le délire? Et en 2019, quand j'aurai sorti le jeu, je pense que j'aurai une grosse polémique. Et surtout, me faire inviter dans des plateaux télé. Tu vois, c'est pour ça que TPMP, j'ai refusé, parce que, cousin, vous avez partagé ma vidéo sur grand écran derrière avec Patrick Sébastien, où tu as ma tête avec Mbappé. Tu ne m'as pas invité. Tu parles, tu fais des si tu ritupères, tu ne m'invites pas. Tu parles de Mbappé qui rigole, tu ne m'invites pas. Par contre, il m'arrive une dinguerie, ouais, tu veux parler ?
L'odeur du sang.
Vas-y, casse-toi. Non, pendant un moment, on dégage.
Et est-ce qu'il y a au moment de la polémique, il y a des humoristes amis qui t'ont appelé pour te
j'ai eu que du soutien. Des personnes inconnues, du soutien. Ahmed Silla qui m'appelle en visio. Hey, mon gars, on est ensemble, t'inquiète, je connais et tout. T'aurais pas dû faire cette lettre d'excuse, mon gars. Sinon, tu leur donnes raison, machin, machin. Ouais, mais tu connais, moi, je suis en contrat avec Dujardin. Faut montrer pas de blanche, frérot, et surtout, tu vois. Il me dit, ouais, je comprends, mais t'inquiète, on est ensemble. J'ai eu des messages de plein d'humoristes, Paul Serré, compagnie, tu vois, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu et où je me sentais pas seul. Et où je me suis dit, ok, d'accord, c'est bon. En fait, c'est juste une meuf qui a pas très bien fait son taf sur ce moment-là, alors qu'elle fait du bon taf de base. Et voilà, et ça m'est arrivé ça. Et elle aussi, elle a reçu des messages hein, de privé en mode.
Ouais, méchant.
Ouais, méchant, en mode, qu'est-ce que tu racontes ? Aziz, c'est ci, c'est ça, tu vois. Donc voilà, mais voilà, après, ça s'est terminé. On est vite passé et voilà.
Aujourd'hui, vous entretenez des bonnes relations?
Non,
ou...
non, non.
Pas de...
Moi, je le dis hein, ici en radio, et si elle l'écoute un jour, et même je le dirai en face, elle m'avait promis qu'elle allait supprimer cette vidéo-là.
Elle l'a jamais fait.
Elle l'a jamais fait. Elle est toujours sur son feed, avec un bon, une bonne photo de couverture. Le jeu, tu récupères, jeu avec les caractères racistes. Donc non, le jour où tu l'enlèveras, on parlera et on discutera, mais là, pour l'instant... Je suis pas faux cul, quoi.
Quand Aziz Aboudrar, il va mal, il parle à qui ? À qui tu te confies quand ça va pas ?
À des potes, à des proches, à Bayoussard, Mathias, Frédéric Bucollet, Olivier Kissita. C'est mes frérots, quoi, tu vois.
On dit que le monde des artistes, de manière générale, humoristes...
Et ma troupe d'improvisation aussi. Ouais.
On dit que c'est un monde très hypocrite, de manière générale, hein, quand le monde des artistes. Est-ce que toi, t'as ressenti ça ou est-ce que ça se passe bien avec...
Non, c'est un monde de requins, frérot, à bout.
On est
à bout de souffle dans ce game. Non, c'est quand tu commences, bah c'est si on te calcule pas, on s'en bat les couilles. Et quand ça pète, bah d'un coup t'es le meilleur ami de tout le monde, quoi. Donc non, c'est un milieu où t'as des amis qui sont sincères avec toi et t'en as plein des mythos, quoi, tu vois.
Comment
faut faire avec, c'est dans n'importe quel taf. Hein. Tu travailles dans une entreprise, tu sers le courrier, on s'en bat les couilles, d'un coup tu montes tes cadres N+4, on te ramène du café, on rigole avec toi, quoi, tu vois. Non, c'est la vie de tous les jours, frère.
Et comment un jeune, il s'arme à ça, justement ?
Par rapport à ça, comment il peut s'armer ?
Ouais, comment, quand...
Trace ta route, poteau, fais ta vie, mets-toi avec des personnes qui sont sincères avec toi, et puis c'est tout, et des critiques t'en auras, et des menteurs t'en auras, des hypocrites t'en auras, des souris hypocrites devant toi. Toi-même, tu feras l'hypocrite aussi. Moi aussi, j'ai déjà fait l'hypocrite. Hein, ça va, ouais, t'aimes bien ce que tu fais. Hein, et après, tu te barres. Et en fait, t'aimes pas. Mais c'est la politesse, c'est le truc, tu vois, c'est le game. Et même, c'est pour ça que moi, des fois, je vais pas trop dans des avant-premières ou quand on m'invite, ouais, sinon, non, j'essaye pas trop de... Alors que c'est mon taf, hein, je dois me mélanger, je m'en montrer ma tête, mais j'ai du mal à me vendre. Donc j'ai du mal à parler de moi, tu le vois, hein, comment je suis. Mais non, faut juste être soi-même, avancer. Et comme je disais tout à l'heure, faire confiance aux bonnes personnes. Et puis voilà, quoi.
T'as dû suivre la cérémonie des Césars, peut-être de près ou
ouais,
de loin.
Ouais, vite fait, de loin.
C'est un rêve un jour d'être convié à cette cérémonie.
Inch'Allah, pourquoi pas.
Pour quel rôle ? C'est quoi le rôle que tu rêverais de jouer ?
Je sais pas. Moi, tant que c'est un rôle qui ne dessert pas notre communauté, c'est le plus important. Et franchement, tu sais, on dit ouais, quand tu fais des rôles de rebeu, machin, mec de cité, tu sais, tu peux le faire, mais s'il y a un vrai fond derrière, un vrai jeu et compagnie que tu proposes, ouais, c'est cool, tu vois. Mais je m'en fous, moi, du rôle, tant que je m'amuse et que le rôle me convient. J'aimerais bien un jour m'appeler André, Régis, tu vois, c'est histoire de changer, excuse-moi le corps. Et voilà, quoi, mais sinon. Sinon, ouais, Inch'Allah, que je soulève un jour ce César-là, ou pourquoi pas aller jusqu'aux Oscars.
Aux Oscars, on te le souhaite.
Tu vois.
Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer à côté d'une opportunité de ouf ? Genre un rôle où t'as refusé pour diverses raisons, et là, aujourd'hui, tu t'en mords les doigts ou pas ? Ça se peut que tu t'en mords pas du tout les doigts. Ça t'est déjà arrivé de passer à côté d'une opportunité ? T'as jamais senti ce truc de « si j'avais fait ça à ce moment-là, peut-être que je serais... »
Non, peut-être sur d'autres projets que je peux pas parler, que je peux pas dire là. Où j'aurais pu faire autrement, ouais, là je me suis un peu mordu les doigts et à me dire putain, j'aurais dû écouter mon manager au lieu d'écouter d'autres personnes, des mythos. Mais sinon, non, après tu connais, frère. Moi j'ai toujours dit là, j'ai eu mon buzz avec Tu Récupères, je suis très honnête avec toi, Abou, je pense l'avoir mal géré.
Pourquoi ? C'est super intéressant ça, justement.
Pourquoi ouais, non, je l'ai mal géré. Je l'ai mal géré, il y a eu le buzz, tout ça, mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu peut-être. À ce moment-là, faire une structure, une prod pour pouvoir faire des spectacles avec, faire des spectacles partout en France de Tu Récupères. J'aurais pu évoluer le Tu Récupères comme un LOL, tu vois, sur Amazon. Ouais. Tu vois, ça, je m'en mords les doigts parce que j'aurais pu faire pareil. mieux gérer les contacts que j'avais, qui sont maintenant perdus. C'est pour ça que je dis, voilà, demain, j'ai un autre buzz sur un autre projet, je vais mieux le gérer que celui-là. Mais c'est pas grave, c'est des échecs. Mmh. Tu sais, t'as eu une réussite. Dans cette réussite-là, t'as eu des échecs. C'est à toi de mieux comprendre ce que... pour plus tard, quoi.
Ça arrivait trop tôt ou c'est toi, vraiment toi qui as mal géré ?
Non, je dirais pas trop tôt parce que j'avais la trentaine déjà. Non, c'est moi qui ai mal géré. C'est
tout simplement.
C'est frère, en fait, c'est... Et j'étais mal entouré, quoi, tu vois. Pas mal entouré parce que mes frérots étaient là, mais je te parle de professionnalisme. J'avais pas vraiment un vrai manager à ce moment-là. J'avais pas une bonne prod qui me suivait à ce moment-là. Pour te dire, la fois où j'ai capté qu'en vrai, j'ai mal fait les choses, c'est bien, c'est gratifiant ce qu'il m'a dit. C'est une fois où Willa que je le croise et il me dit, ouais, dis-moi, c'est qui ta prod, tu récupères, j'ai un projet. Je fais, mais y a pas de prod. Tu commences, y a pas de prod, je fais tout moi-même. Ouais. Il me dit, mais non, c'est un truc de fou. Mais même dire c'est un truc de fou, c'est cool, mais me dire, putain, en vrai, j'aurais pu avoir une prod pour créer les trucs, avoir des partenariats, des trucs, tu vois ce que je veux dire, avoir un truc où mieux gérer le côté presse, c'est-à-dire que j'aurais pu mieux gérer le fait d'être invité dans des vraies émissions, avoir des vrais papiers dans le journal, tu vois, j'ai mal géré tout ça. Mais c'est pas grave, c'est un truc qui m'est arrivé, j'ai goûté à cette notoriété, j'ai goûté à tout cet engouement et compagnie, j'étais très... ok, en plus, tu vois, je suis en mode où je gère un groupe. Je suis pas tout seul, je gère un groupe, donc il faut gérer les égos de chacun et compagnie, gérer le planning, gérer plein de trucs. Et aussi savoir déléguer, tu vois. À l'époque, je déléguais pas, je voulais tout faire tout seul. Même quand je déléguais avec des gens, je repassais derrière. Non, j'aime pas, machin, je m'embrouillais avec des gens. Donc non, j'ai mal géré, c'est pour ça que la prochaine fois, je ferai mieux, quoi.
Comment il se sent, Aziz Aboudrar, aujourd'hui ?
Il sent encore plein d'ambition, il sent encore motivé comme never, mais il sent encore, je me recherche encore, quoi. Je cherche encore ce que je veux faire, j'ai plein de projets que j'ai pas encore abouti et que j'ai envie de faire, j'ai d'autres émissions, j'ai créé avec mon pote Chouri le concept Gaulerie Show, une émission un peu à la Vendredi Tout est Permis, mais où je me suis un peu inspiré de Wild and Out, un concept américain, et une Living Color. Dans les années 90, une émission où on a vu Jimmy Fox, Jim Carrey et tout. Et là, c'est sur ça que je me concentre sur ma scène. Donc je me sens encore, encore à toute frappe, quoi, toute patate.
T'es prêt encore à tout déchirer ?
Frère, j'ai pas encore percé. Et y a des mecs comme Louis de Funès qui a percé vers les fin 50 ans, début 60. Il y a plein de gens qui ont percé très très tard et je lâche pas l'affaire et c'est mon mektoub, on verra par la suite, quoi.
On continue à te reconnaître dans la rue ?
Ouais, toujours. Toujours par rapport à... Ouais, ouais, tu récupères, toujours, ouais.
Et c'est toujours aussi gratifiant, c'est...
Toujours un plaisir, ça fait toujours du bien. C'est toujours... Pour ton ego personnel, ça fait plaisir, tu vois. Et surtout de te dire que t'as créé des trucs qui fait rire les gens, quoi, tu vois, et qui ça leur... Jusqu'à maintenant, ils disent qu'ils regardent et tout. Jusqu'à maintenant, ils me disent, ouais, mais t'en fais plus. Mais t'en as regardé combien ? J'en ai regardé 3, mais il y en a 13. Il y en a 10 autres, frérot, fini. Et voilà, quoi. Mais ouais, non, on reconnaît toujours et c'est toujours un plaisir de prendre des photos avec les gens.
Question un peu tabou, on va parler un tout petit peu d'argent sans rentrer dans les détails.
Ouais, non,
est-ce que ça t'a rapporté beaucoup d'argent, tout ça ? Et est-ce que cette partie-là, t'as bien géré, t'as pu coffrer ? Ou est-ce que c'est nous, dans notre imaginaire, on voit quelqu'un qui fait des millions de vues, on se dit qu'il est riche alors que...
C'est, ouais, c'est ça, c'est très bien de devoir dire ça. J'ai pris de l'argent, j'ai pas pris des centaines de milliers d'euros, tu vois. Je suis pas millionnaire du tout. J'ai mal géré le truc, mais je l'ai investi sur des concepts. Tu vois, moi j'ai de l'argent, mais bizarrement je mets directement dans des concepts vidéo, donc je paye des cadreurs et compagnie, je fais plein de trucs. Et oui, c'est très intéressant de dire ça. C'est pas parce que tu vois une personne sur les réseaux que ça fonctionne, tu penses qu'il est millionnaire, c'est archi faux, quoi. On est en France, poteau. Tu payes des impôts, tu payes plein de trucs. Tu t'es pas aux States, frère, tu vois. Et non, c'est pas parce que t'es sur les réseaux que t'es millionnaire. Ça, si on me donnait juste 10 centimes par million de vues, par vue, frère, ouais, là oui, peut-être que je serais multimillionnaire. Mais non, en vrai, c'est de l'argent qui vient. En fait, comme je dis, l'argent, ça vient, ça part. Et quand ça vient, faut juste bien le miser quelque part et après voir. Tu sais, on est des agriculteurs dans ce game. Hein. T'arrives, tu sèmes des petites graines et à un moment, il y a un truc qui va pousser, donc on va voir.
Aujourd'hui, tu vis de quoi ? Est-ce que c'est l'argent passif qui est sur le jeu qui est sorti ? ou est-ce que tu t'es remis à faire un autre taf ou tu fais qu'est-ce que
non,
tu
non,
qu'est-ce
qui fait Aziz Aboudrar? Toujours moi dans la comédie, je suis intermittent du spectacle. Donc voilà, revenu d'intermittent du spectacle tous les mois. Je suis sur scène au Jamel Comedy Club avec ma troupe. On a une tournée, on a fait une tournée cette année. Je fais beaucoup de théâtre forum dans des collèges et des lycées. Je donne des cours d'impro. À côté, je peux faire du consulting aussi pour des gens par rapport à des vidéos et compagnie. Il y a aussi les réseaux sociaux aussi qui me permettent d'avoir de l'argent, que ce soit sur Facebook, TikTok, YouTube. Et voilà quoi, non, on survit et alhamdoulilah, tu vois.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Aziz Aboudrar?
Beaucoup de projets, que tous mes projets fonctionnent, que je me marie, Inch'Allah.
On te le souhaite.
Inch'Allah.
T'as déjà trouvé ou pas?
Non, du tout. Alors, je crois qu'elle ne veut pas venir, mais bon, tranquille. et voilà, et beaucoup d'oseille.
Beaucoup d'oseille
pour faire beaucoup de projets. Moi, c'est ça le truc.
On te le souhaite. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Normal et désolé pour la dernière fois. Hein.
Ouais, parce que...
ouais, la dernière fois, on avait rendez-vous et j'étais en plein la Seine-sur-Mer.
Mais j'avoue, sur ça, moi aussi, je vois le matin, t'es dans le sud et j'en parlais avec Jason, le technicien. J'ai dit, j'ai vu ce matin, il est dans le sud, mais je pense que c'est une ancienne story qu'il a mis.
Non.
Il me dit, ouais, mais envoie-lui un message et demande quand même. C'est un défaut que j'ai, moi, je relance pas les.
Ouais, et moi, c'est un défaut que j'ai, c'est de pas noter. Des fois, je vais noter, et des fois, je vais dire, je vais noter dans l'agenda, et j'ai oublié. Comme là, j'ai zappé, et j'étais en train de sortir d'un rendez-vous, et j'allais me poser pour bosser. Tu m'envoies un message, j'ai fait, waouh, c'est vrai. Et en plus, c'est le 13e, bon, ça va, c'est à côté. Je suis en scooter, c'est rapide.
Bah, les torts sont partagés. On va finir avec un petit jeu. Ouais. Je te fais des débuts de phrases et tu les finis.
Vas-y.
Si c'est bon pour toi. L'humour pour moi est.
L'humour pour moi est important dans la vie.
Je trouve que les humoristes d'aujourd'hui sont.
Très talentueux.
Être Aziz Aboudrar aujourd'hui, c'est.
Beaucoup de problèmes.
La religion pour moi est une.
Est une nécessité.
Le plus drôle quand on me reconnaît dans la rue, c'est.
C'est pas toi, tu ris, tu perds.
L'humoriste avec lequel c'était le plus relou de collaborer, c'était.
Le plus relou.
Tu peux dire un ami comme ça t'évite les problèmes.
Ouais, Malik Amraoui.
Sans tu ris, tu perds, je serais.
Je serais VTC.
Je suis pas raciste, sinon j'aurais.
Sinon j'aurais ma carte de Rassemblement National, bande d'enfoirés.
J'aimerais dire à Ahmed Silla que.
Que je l'aime de tout mon cœur et que c'est un artiste incroyable, humainement incroyable et que ce qui lui arrive, c'est. Dieu qui lui donne et parce que c'est une bonne personne.
Le plus excitant en montant sur scène, c'est.
L'adrénaline, c'est faire rire les gens.
Le plus dur quand on est issu d'origine étrangère, c'est.
C'est toujours faire plus.
Le futur pour Aziz Aboudrar s'annonce.
Glorieux, Inch'Allah.
Si je devais utiliser trois mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais.
Mon état d'esprit joyeux. Comment dire un mec qui réfléchit trop?
Pensif.
Pensif. Et remonté d'estomac.
Mon interview du jour, elle était...
Incroyable. Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Et merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir écoutés durant une heure. Bien évidemment, cette émission, elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et j'en passe. Également disponible sur monparisfm.com. Merci à Jason Lindor qui était à la technique.
Bravo Jason.
Merci,
ouais.
Merci à Jay qui était derrière les caméras.
Bravo Jay. Ouais.
Et merci à Maëva qui gère la communication.
Et merci à Bou. Bravo à Bout de Souffle.
Merci à vous, c'était un plaisir. Passez une bonne soirée.
Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.